Bien, bonjour à tous, vous êtes en direct sur Radio Campus, la radio des bonnes ondes. Donc aujourd'hui, je vous présente une nouvelle émission consacrée au handicap. Et pour cela, je vous retrouve tout de suite pour la présentation de Ma vie, mon handicap.
Ma vie,
mon handicap.
Tous les derniers mardis du mois, de 14h à 14h30.
Une émission présentée par Sylvie Burnichon. Ma vie,
mon handicap.
Donc mon concept d'émission sera consacré au handicap sous toutes ses formes pour apporter un espace de parole aux personnes directement concernées, aux familles ainsi qu'aux professionnels qui le souhaitent. S'exprimer, être orienté, affirmer ses besoins, parler des difficultés vécues au quotidien. Donc c'est pour cela que j'ai voulu créer ce concept parce que pour moi le handicap c'est l'affaire de tous. Alors je souhaite aussi sensibiliser bien entendu ceux et celles qui ne sont pas concernés et sans oublier la discrimination auprès des personnes handicapées. Alors beaucoup de sujets seront traités en fonction du thème choisi. Il y aura des invités, soit au studio ou soit en interview téléphonique, comme des directeurs d'établissement ou des personnes engagées ou tout simplement sensibles face aux problématiques liées au handicap. Certains thèmes reviendront assez régulièrement. Je pense à la pénurie de lieux de vie, d'accueil de répit, mais également des concepts très intéressants d'ailleurs d'insertion à la vie sociale ainsi que l'habitat inclusif pour les adultes ayant en principe une bonne autonomie. Et surtout en fonction du thème, n'hésitez pas à réagir si vous êtes concerné. Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus, la radio des bonnes ondes, et je reçois avec grand plaisir aujourd'hui pour ma première émission Monsieur Jérôme Luçon, directeur de la Maison Rochat au Ménil-en-Vallée à Mauche-sur-Loire.
Tous les derniers mardis du mois, de 14h à 14h30.
Vous écoutez Ma vie, mon handicap.
Là, je vous retrouve sur Radio Campus. Et pour cette première émission donc, de Ma vie, mon handicap, je reçois, comme prévu, donc Jérôme Luçon. Bonjour Jérôme Luçon.
Bonjour.
Vous êtes directeur du foyer de la Maison Rochat.
C'est cela. Donc Maison Rochat est un établissement médico-social qui accueille donc des adultes en situation de handicap. Mmh. Nous proposons donc de l'hébergement en permanence, de l'accueil temporaire, ouais, et également des solutions en accueil de jour. C'est un établissement donc pour des personnes qui sont en situation de handicap en raison d'une déficience intellectuelle, une situation de polyhandicap et également des personnes qui ont des troubles du spectre autistique.
Donc en fait, on peut dire que vous accueillez quand même des résidents avec des pathologies lourdes quand même.
Alors, il y a différentes pathologies. Le niveau de handicap est variable. Nous avons des personnes qui sont relativement autonomes dans le quotidien, mais qui ne peuvent pas envisager d'aller vers le travail, même à un ESAT.
Oui.
Et nous accompagnons également des personnes qui sont totalement dépendantes pour tous les actes de la vie quotidienne.
C'est donc la différence, du coup, un foyer de vie pour adultes, ça, c'est là que justement je voulais vous poser la question, entre un foyer tel que celui que vous dirigez est visiblement différent qu'un foyer ESAT justement.
Alors, un ESAT, c'est donc un établissement et de soutien et d'accompagnement pour le travail, par le travail.
Oui.
Donc, ce sont pour des personnes en situation de handicap qui ont quand même des capacités de s'inscrire dans l'insertion professionnelle. Les foyers, donc, qui regroupent plusieurs terminologies. On parle de foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée. Ce sont donc des lieux d'hébergement pour des
D'accord.
personnes là, qui ne peuvent pas aller vers l'emploi. C'est ça la grande différence.
Donc, on parle là de masse ou de femmes aussi.
C'est
des services bien spécifiques.
Voilà, donc MAS, c'est une maison d'accueil spécialisée et foyer d'accueil médicalisé. Ce sont des établissements avec du soin, donc avec des paramédicaux et des professionnels éducatifs. Et dans les foyers de vie, il y a moins de soins, donc il n'y a pas de paramédicaux. Voilà, c'est la grande différence.
Quelle est, justement, pour ce genre de structure comme la Maison Rochat au Ménil-en-Vallée, quel est le rôle de l'ARS? Alors l'ARS, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop, donc c'est l'Agence Régionale de Santé. Alors quel rôle joue ce service pour ce genre de structure, par exemple?
Alors, l'Agence Régionale de Santé, comme le département, sont des financeurs de ces structures-là. Donc selon, si c'est une structure médicalisée, c'est l'Agence Régionale de Santé. Sinon, c'est le département qui apporte le financement pour faire fonctionner ces établissements-là.
Donc au sein du département, il y a aussi un service bien spécifique justement pour les personnes en situation de handicap. C'est donc la MDA, la Maison de l'Autonomie. Mais dans certaines régions, on parle encore de MDPH. Donc à Angers, donc par chez nous, donc c'est la MDA. Quel est le, justement, au niveau administratif et pour l'instruction des dossiers, les délais, qu'est-ce qu'on peut en dire de la MDA?
La MDA est une sorte de guichet unique sur le département. Les personnes qui sont donc en situation de handicap ou leurs proches peuvent donc contacter la MDA, soit pour avoir ce qu'on appelle une notification, une orientation pour aller vers tel ou tel établissement médico-social, mais également pour pouvoir accéder à l'ensemble des aides, notamment financières, que peuvent percevoir des personnes en situation de handicap. Comme par exemple, même une carte, la carte d'invalidité, la carte aussi en termes de pour le transport, ce sont des cartes qu'on doit demander au niveau de la MDA.
Bon, bien sûr, il doit y avoir des délais quand même impartis à partir du début de l'instruction du dossier. Je pense qu'il y a un délai quand même assez long.
Alors, oui, il y a des délais d'instruction des différents dossiers qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, mais ça dépend des besoins et du type de demande. Voilà, mais c'est vrai que c'est un besoin important et une grande sollicitation depuis une dizaine d'années.
Concernant l'absence de lieu d'accueil, pourtant, il faut reconnaître indispensable pour certaines personnes en situation de handicap ayant peu ou pas d'autonomie, quelles possibilités peuvent être apportées? Alors là, je veux parler de ce programme justement d'habitat inclusif. De partout, on commence à entendre un petit peu parler de ce concept. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire?
Peut-être avant de parler déjà de ces offres nouvelles, ces autres solutions, c'est peut-être revenir sur le contexte du manque de place.
Oui.
Depuis de nombreuses années, l'accès aux soins s'est nettement amélioré pour les personnes en situation de handicap et on observe, et tant mieux, une espérance de vie de plus en plus allongée, de plus en plus longue. On a aujourd'hui dans les établissements des gens qui vont jusqu'à 80 ans, ce qui est le cas à Maison Rochasse pour la personne qui est la plus âgée. Et ça, c'est quand même un élément nouveau. Ça veut dire qu'au sein des établissements, les personnes, elles y vivent de plus en plus longtemps. Ce qui fait que les possibilités d'y entrer, elles sont de moins en moins nombreuses. Et puis, on a beaucoup d'enfants qui étaient dans des structures comme des IME qui, effectivement, sont en attente, en recherche d'une solution lorsqu'ils deviennent adultes.
Ouais.
Un petit peu comme un enfant qui vit dans sa famille, qui à un moment donné veut avoir son indépendance, et bien il se passe la même chose pour des jeunes qui sont dans des établissements médico-sociaux. Voilà, donc depuis maintenant à peu près 5 ans, il y a un mouvement important, une réforme de fond pour amener à trouver d'autres solutions que simplement les établissements, on va dire, classiques. Donc il ne s'agit pas de remplacer les établissements, mais de pouvoir proposer autre chose, des offres un peu nouvelles, donc parmi lesquelles on parle de l'habitat inclusif, qui sera demain donné une possibilité de vivre dans un logement accompagné, pas nécessairement seul, et soutenu, de façon à pouvoir disposer de son propre lieu de vie. Voilà, donc ça c'est une des solutions en termes d'offres nouvelles.
Alors les besoins de prise en charge donc sont bien sûr énormes, puisque beaucoup d'enfants, d'adolescents, d'adultes en situation de handicap, dont les autistes, attendent bien sûr, comme on est en train de dire là à l'instant, attendent encore des solutions pérennes. Alors que va apporter, alors très concrètement, ce principe justement d'habitat inclusif, au niveau de l'insertion sociale qui est déjà très importante? Est-ce que l'habitat inclusif justement, est-ce que ça va ouvrir un droit de vivre autrement pour certaines personnes en situation de handicap?
L'habitat inclusif, il peut être un peu pensé comme une troisième voie. C'est-à-dire que vous avez des personnes en situation de handicap qui font le choix de rester au domicile familial, où c'est le choix de la famille.
Ouais.
Et puis, pour des situations pour lesquelles la famille n'est pas en mesure, où il y a un souhait de la personne, c'est d'être dans un établissement médico-social. Donc, la troisième voie, c'est d'être sur des logements dits accompagnés, avec une équipe autour qui pourra accompagner la personne, une équipe qui s'appuiera sur ce qu'on appelle, nous, le droit commun. C'est-à-dire, les personnes pourront solliciter les services à domicile, comme toutes personnes qui sont à leur domicile, les services infirmiers à domicile. Et donc, ces personnes-là auront la possibilité d'avoir une petite vie collective. Et on parle en termes de participation citoyenne, de participation sociale. Mais elles ont accès à ce droit d'avoir une vie sociale comme toute personne à part entière. L'enjeu de ces habitats inclusifs, c'est leur implantation. Il est essentiel que l'implantation de ces habitats inclusifs soit au cœur de la cité. Que ce soit d'une grande ville ou d'une petite ville ou d'un grand bourg, voilà. Mais l'essentiel, c'est d'être à proximité de services, que ce soit les commerces, les services médicaux, de santé, les associations, pour pouvoir justement accéder assez facilement à toutes ces commodités.
Les loisirs aussi.
Les loisirs, exactement.
Donc en fait, ce programme d'habitat inclusif, ce serait aussi donc très possible, comme d'après ce que vous m'expliquez, Jérôme Musson, donc même pour les personnes avec peu d'autonomie, qui ne peuvent pas se débrouiller seules, voyez, par exemple, comme je pense un petit peu à ma fille qui est autiste.
Aujourd'hui, l'État français, depuis maintenant une dizaine d'années, a mis en place des dispositifs qui permettent à des gens très dépendants, avec une situation de handicap important, de pouvoir rester au domicile s'ils le souhaitent. En s'appuyant sur ces possibilités-là, notre ambition, elle est effectivement de pouvoir penser de l'habitat inclusif également pour des personnes qui ont un niveau d'autonomie, on va dire, assez faible ou des besoins importants sur le plan de la santé. Alors évidemment, il faut intégrer la notion aussi de sécurité, mais comme on a l'habitude de dire, nous dans notre jargon, la question accéder à une autonomie, c'est aussi prendre des risques. Mais il faut évidemment que ce soit des risques mesurés, dans la mesure du possible, des risques maîtrisés. Sinon, si on ne permet pas d'aller vers de l'autonomie, eh bien, c'est vrai que ça passera par une prise de risque à zéro, mais ça, c'est guère possible.
Ouais. Alors, au niveau du personnel qui interviendra justement, est-ce qu'il y aurait une possibilité, alors vous me parlez donc d'infirmiers, d'aide à domicile, c'est déjà quand même, c'est un beau projet pour ma part, mais est-ce qu'il y aura aussi un encadrement avec des éducateurs comme dans certaines structures ?
Alors, dans l'habitat inclusif, on n'est pas dans un établissement médico-social avec une équipe qui encadre.
D'accord.
Il faut concevoir l'habitat inclusif comme d'abord un logement, c'est un habitat à part entière classique. Et la personne, elle est donc locataire, comme toute personne. La différence d'un habitat classique, c'est que souvent, ils vont être plusieurs dans le même habitat. Alors, soit en colocation ou des petits logements mitoyens les uns à côté des autres. Et l'ensemble, ce petit groupe qui peut être jusqu'à 8 personnes, eh bien, vivront autour de ce qu'on appelle un projet de vie sociale partagé. Et ce projet de vie sociale partagé sera accompagné et encadré, animé par un animateur avec un financement qui sera prévu.
Ah oui.
Ensuite, chaque personne, les 8 personnes qui ont des besoins individuels, eh bien, elles pourront solliciter à titre individuel des aides à domicile, des auxiliaires de vie, des aides-soignants, en fonction de leurs besoins.
Et donc, c'est là que la MDA rentrera au niveau pour la PCH,
alors,
j'imagine.
Voilà, ces personnes qui vivront ensemble dans un habitat, elles ont des droits en fonction de leurs besoins. Et du coup, le rôle aussi de l'animateur, c'est de permettre de mettre en relation ces habitants avec les services autour pour pouvoir répondre à ses besoins.
Donc, alors bien sûr, malgré que ce soit un très beau projet, un très beau concept, bon, il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'il faut quand même avoir des endroits structurés pour d'autres personnes, bien sûr, qui ne peuvent pas se gérer tout seul, qui ne peuvent pas du tout gérer tout seul. Donc, apparemment, il y a un enjeu. Est-ce qu'il y a un enjeu, justement, pour une commune ou une ville, justement, d'intégrer des personnes en situation de handicap ? Est-ce que justement, voilà, c'est un genre de défi, voilà, ou une intégration proprement dit par le manque justement par rapport à ce manque de structure, ou alors est-ce que c'est un genre de défi, par exemple qu'une commune ou une ville se dise, bah tiens, là on va intégrer effectivement des personnes en situation de handicap parce qu'elles ont le droit de vivre comme les autres.
On va reprendre aussi, quand on parle d'habitat inclusif, il y a un terme important, c'est la notion de inclusif. Inclusif, c'est quoi la finalité finalement? C'est de permettre une inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Mmh. Ce mouvement, en fait, c'est un mouvement qui a deux sens. D'un côté, c'est de permettre à des personnes d'avoir une place dans la cité, mais c'est également, la cité s'ouvre à ces personnes.
D'accord.
Donc, l'ambition est un des enjeux importants. C'est de faire en sorte que, par exemple, les commerces, les associations, les habitants du quartier où pourrait être implanté l'habitat inclusif, c'est de faire en sorte que ces différentes personnes, finalement, s'ouvrent à la question du handicap.
Oui.
Donc, l'enjeu, il y a un gros travail de sensibilisation auprès de ces commerçants, associations, de façon à ce qu'ils soient accueillants.
Voilà.
Donc, il faut rassurer. Il faut expliquer, et du coup, c'est lorsque l'environnement, finalement, sera sensibilisé, ce sera préparé, que l'on pourra envisager vraiment d'aller vers de l'inclusion sociale.
Voilà.
Donc, c'est effectivement un mouvement qui va prendre du temps, qui va prendre du temps. Et c'est vrai qu'il faut, pour mener ces projets, il faut trouver des collectivités locales qui soient parties prenantes. Donc, souvent, ça peut être les communes, les communautés de communes, qui vont intégrer dans leur projet d'urbanisation, par exemple, des équipements ou des programmes immobiliers pour pouvoir implanter de l'habitat inclusif.
Pour permettre à l'intégration de ces personnes en situation de handicap soit plus facile pour eux.
Ce qui est important, il ne s'agit pas simplement de penser un habitat, de penser l'aide à la personne au quotidien, mais il faut surtout que l'environnement il soit également accueillant et inclusif. Voilà.
Oui, c'est important. Oui. C'est important. Alors, il faut être adulte, justement, pour rentrer dans ce programme d'habitat inclusif. Alors, à partir de quel âge, réellement, on peut prétendre bénéficier de ce concept? À partir de quel âge?
On parle d'adultes qui vont bénéficier, qui doivent bénéficier par exemple de la PCH, mais pas seulement, hein, ça se situe à partir de 20 ans. Mais il faut l'imaginer, accéder à des habitats inclusifs, aller dans un habitat inclusif, c'est comme des adultes qui eux ne sont pas directement concernés, mais voilà, ils quittent le cocon familial, je dirais, autour de 20 ans, même si parfois ça commence un peu plus tôt pour des raisons d'études ou autres.
Ouais.
Mais on peut être dans le même ordre d'idée, hein, autour de la vingtaine, mais ça c'est propre à chaque personne en fonction de son parcours, en fonction de la famille. Voilà, il n'y a pas nécessairement un âge limite, évidemment pas des mineurs, ça ne s'adressera pas à des mineurs. Ce qui est important, il faut dire, c'est des projets, à la différence là aussi des établissements, c'est que c'est des projets dans lesquels les personnes qui bénéficieront de ces habitats inclusifs, qui seront locataires, c'est des personnes qui vont faire le choix. Il y a vraiment une dimension de ce que nous on appelle de l'autodétermination.
Ouais, d'accord.
Elles font le choix d'aller dans ces habitats inclusifs. C'est les personnes, mais également leur entourage, les familles qui sont aussi très présents. Et ça aussi, c'est une grande différence avec les établissements, où là, il y a un rôle central et pivot de la personne directement concernée et des familles.
Alors, on parle de préparation. Imaginons, donc, je prends une résidente ou un résident au sein de la Maison Rocha, par exemple, hein, que vous dirigez, hein, Jérôme Luçon. Comment préparer psychologiquement une résidente ayant vécu, mettons, 20 ou 25 ans au sein de la Maison Rocha?
Alors,
comment on peut, voilà, la préparer psychologiquement? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de perte partielle ou totale peut-être de repères, surtout pour une personne qui ne verbalise pas, par exemple, de lui faire comprendre petit à petit, voyez, ce changement de vie, voyez.
Oui, alors, pour illustrer, je vais illustrer ma réponse, hein, avec un projet que nous sommes en train de mener. C'est un projet qui a ouvert au mois de décembre dernier, qui s'appelle le logement passerelle. Le principe du logement passerelle, c'est de permettre à des personnes qui aujourd'hui sont en établissement établissement médico-social, donc à Maisons-en-Chasse, c'est de permettre à des personnes d'expérimenter une vie dans un environnement qui va se rapprocher de l'habitat inclusif.
Oui.
Donc depuis le mois de décembre, nous accueillons avec des, sur un principe un peu de petit séjour, des personnes 4 par 4, hein, et donc qui expérimentent ce type de vie avec un accompagnement un peu différent.
Oui.
Moins de, en termes d'accompagnement, il y a un peu moins de personnes. On n'est pas du tout au sein de l'établissement. Ça aussi, c'est un élément très important. On est dans des chambres qui se rapprochent de chambres que l'on peut avoir dans une maison classique, une salle à manger classique.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas les mêmes notions de sécurisation de l'environnement. Et donc, on travaille beaucoup la notion de la participation, d'agir, le pouvoir d'agir, la participation de la personne. Et donc, ça nous permet comme ça de mettre en situation et d'identifier si finalement ce type d'habitat a un vrai intérêt pour la personne. Et jusqu'à présent, nous avons donc une quinzaine de personnes de Maison Rochat qui ont pu bénéficier de ce projet-là. La première période est à peine terminée, mais on a déjà pu identifier aujourd'hui à peu près 8 personnes pour qui l'habitat inclusif serait un vrai plus, où on a pu voir que la personne, finalement, eh bien, elle développe ou elle réutilise des compétences qu'elle utilisait sans doute un peu moins au sein de l'établissement. A contrario, on a pu identifier que pour des personnes, finalement, ça ne répondait pas à ses besoins, à des attentes, voire au contraire, ça venait générer ou induire d'autres difficultés. Et ça nous permet de confirmer que la réponse de type établissement reste une réponse importante.
Oui.
On ne veut surtout pas leurrer les gens, faire croire qu'on peut vivre sans ces établissements spécialisés. Eh bien non, on sait que les établissements spécialisés sont encore nécessaires parce qu'on a des personnes qui ont des besoins très spécifiques, un environnement très sécurisé. Et donc la mise en situation a permis d'identifier que ce serait sans doute un peu compliqué. Aujourd'hui, demain, peut-être qu'ils évolueront et on aura la possibilité de leur reproposer à nouveau un séjour en logement passerelle. En tout cas, c'est un projet qui est accompagné par l'Agence régionale de santé. On a à peu près encore 2 années de fonctionnement sur ce logement passerelle. Et notre objectif, dans la continuité, c'est effectivement de pouvoir développer sur le territoire de Mauges-sur-Loire plusieurs habitats inclusifs.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jérôme Luçon, d'avoir répondu à mon invitation.
De rien.
J'étais ravie. Et donc, alors vous êtes toujours en direct sur Radio Campus, la radio des bonnes ondes. Donc, pour vos questions, pour apporter vos témoignages, vous pouvez le faire soit via Radio Campus ou sur ma page Facebook à Sylvie Burnichon. Je vous retrouve pour la deuxième émission de Ma vie, mon handicap. Ma deuxième émission portera justement sur les manques de moyens et de lieux aussi pour les personnes autistes. Je recevrai monsieur Arnaud Le Breton, donc le créateur de l'association Pas à Pas à la Pommeraye, toujours à Mauges-sur-Loire. Et en attendant, écoutez, très bonne semaine à tous sur Radio Campus.
Retrouvez Ma vie, mon handicap en podcast sur le www.radiocampusangers.com.